Des passages de la naissance de Jésus tirés de l'évangile de Matthieu et de Luc. Il est frappant de constater que l'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Mais si je posais cette question dans cette assemblée ce matin, que combien ont sauté la partie généalogie, c'est-à-dire les 17 premiers versets, quelle serait la réponse? Vous êtes-vous déjà demandé ce que la Bible dit sur la généalogie? L'apôtre a mis en garde Timothée contre les généalogies au début de sa première lettre au Timothée. Je lis, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour Macédoine, lorsque je t'engagerai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Paul répétait aussi à Tite, 3:9, « Voici ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, des querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » C'est ça que la Bible elle dit par rapport à la généalogie. Certes, déjà à l'époque de Paul, les hommes se seraient retrouvés embrouillés à des recherches inutiles en généalogie et en arguments sans fin. Même de nos jours, il y a un groupe de personnes qui disent mormons ou l'Église de Jésus-Christ des derniers jours se livre à de telles choses. Bien sûr, Paul avait raison de le dire, il a raison de le dire pour même à nos jours. Et nous avons ces versets dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Cela inclut des sections telles que le passage que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 1, le premier 17 versets. Bien que certains puissent le considérer comme un tableau généalogique, sec et laborieux, de non sans fin, il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mon objectif sera de partager quelques pensées spirituelles qui peut être utile pour nous quand nous cherchons pour méditer sur la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et je vous prie de prendre avec moi l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Nous allons lire le premier 17 premiers versets. Matthieu, chapitre 1. Je lis, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Le verset 7, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotham, Jotham engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères. Au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel, et Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Eliezer, Eliezer engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Donc même en lisant, on peut être perdu avec les noms. Et certaines personnes on connaît, c'est des noms bien connus, et certaines d'autres, c'est moins connu, et certaines sont très, ils avaient une position très haute, et certaines d'autres, non. Et d'abord, on devrait poser la question, pourquoi étudier la généalogie? Pourquoi étudier ce passage? Premièrement, la généalogie aide à étayer l'exactitude historique de la Bible. Ces listes confirment l'existence physique des personnages de la Bible. Toutes ces personnes que nous avons lues, elles sont vraiment existées. Ce n'est pas des fables, elles sont vraiment existées. C'est des gens comme les gens comme nous, dans le sang, os et la chair. Elles sont de vraies personnes. En connaissant les histoires familiales, nous comprenons que la Bible est loin d'être une simple histoire ou une parabole sur la façon dont nous devrions vivre nos vies. C'est une vérité authentique et historique. Un homme réel nommé Adam avait des descendants réels. Et par conséquent, son péché réel a des conséquences réelles. Et deuxièmement, les généalogies confirment également la prophétie. Le Messie a été prophétisé pour venir de la lignée de David, le roi David. Et je vais lire de Isaïe 11, 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe un rejeton naîtra de ses racines. En consignant sa lignée dans les Écritures, Dieu confirme que Jésus descend de David. Et on peut voir dans ce passage, il était un descendant du roi David. Et aussi, nous avons un autre passage dans le Nouveau Testament. C'est le seul deux passages de généalogie qu'on trouve dans la Bible. En Luc chapitre 3, 23 à 28, nous allons pas lire maintenant. Vous pouvez comparer ces deux passages pour mieux comprendre la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. La généalogie est une autre attestation de l'accomplissement par Jésus-Christ des prophéties de l'Ancien Testament. Donc, la généalogie, ça montre que combien c'était exact l'accomplissement des prophéties. Rien qui était raté. Les prophètes ne l'ont pas trompé dans leur prophétie. Et ce qu'ils ont dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Et troisièmement, les listes démontrent également la nature détaillée de Dieu et son intérêt pour les individus. On voit souvent Dieu comme un Dieu lointain. Souvent, on pose la question, où est Dieu dans tous ces affaires, dans toutes ces tragédies, dans toutes ces misères. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain qui ne s'intéresse pas sur les détails de notre vie. Dieu ne voyait pas Israël vaguement comme un groupe nébuleux des personnes. Pour nous, on dit que les enfants d'Israël, ça contient des millions de gens. On dit simplement les enfants d'Israël. Mais Dieu, il connaissait chaque individu dans ce peuple. Il voyait avec spécificité, précision et détail. Il n'y a rien de détaché dans la généalogie. Il montre un Dieu impliqué. Dieu est-il vraiment impliqué dans la vie des hommes? Oui. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est la preuve que combien Dieu s'est impliqué dans la vie des hommes. La parole de Dieu mentionne les gens par leur nom. Tous ces personnes, elles ont un nom. La parole de Dieu mentionne les gens par leur nom, des vraies personnes avec de vraies histoires et de vrais avenirs. Dieu se soucie de chaque personne et des détails de sa vie. Et bien souvent, le monde nous fait écarter, il nous montre un Dieu qui est éloigné. Mais le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu éloigné, mais c'est un Dieu qui intéresse dans le détail de nos vies. Jésus lui-même, il dit dans l'évangile de Matthieu, « Ne vendons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Matthieu 10, 29 à 31. Enfin, nous pouvons apprendre de diverses personnes énumérées dans la généalogie. Certaines des listes contiennent des parties narratives qui nous donnent un aperçu de la vie des gens. Les généalogies révèlent que Ruth et Rahab sont dans les lignées messianiques. Nous voyons que Dieu valorise la vie de ces personnes, même si elles étaient des païennes et ne faisaient pas partie de son peuple de l'Alliance. La généalogie de Jésus nous montre comment et de quelle manière notre Dieu éternel avait façonné des différents hommes et femmes à travers les âges pour préparer l'avènement de son Fils Jésus au moment précis de la prophétie. Les prophètes, ils sont prophétisés, mais Jésus, il est venu dans le temps convenu par Dieu. Et pendant des siècles, Dieu, il a utilisé, il a choisi les hommes et les femmes, puisque la prophétie peut accomplir dans la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Un temps très précis de l'histoire du monde, bien que les généalogies puissent à première vue sembler non pertinentes, elles occupent une place importante dans l'Écriture. Les généalogies renforcent l'historicité de l'Écriture, confirment la prophétie et donnent un aperçu du caractère de Dieu et de la vie de son peuple. Et maintenant, nous allons voir dans la généalogie un aspect qui parle la semence promise. La semence promise. Et où est-ce qu'on trouve la première mention de cette semence, de la semence promise? On trouve en Genèse 3:15, bien sûr. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » C'est après la chute de l'homme et Dieu prononce la malédiction sur Adam, sur Ève et sur le serpent. Et là, Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Et celle-ci t'écrasera la tête, ça parle la semence de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et lui, et tu lui blesseras le talon que le serpent, il blessera le talon de Jésus. Nous savons que c'est passé pendant sa crucifixion. Car ceci est la première promesse qui a été faite d'un sauveur à la race déchue d'Adam. Nous ne cherchons généralement Christ que dans le Nouveau Testament, mais le christianisme, dans un sens, remonte au jour de la création dans le Jardin d'Éden. Des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et voici un ange du Seigneur leur apparut et leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Qu'est-ce que c'était cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle que Dieu l'a promis en sauveur en Genèse 3:15. C'est ça la bonne nouvelle. Beaucoup de cette génération auraient oublié, en ce temps, beaucoup de cette génération auraient oublié cette semence promise. La promesse du salut de l'humanité faite à nos premiers parents, Adam et Ève, c'était la bonne nouvelle dont parlait l'ange. Il est merveilleux d'observer comment Dieu a progressivement révélé son Fils à l'humanité. Il a commencé par la promesse dans le texte, et c'est là les élus ont vécu jusqu'à l'époque d'Abraham. Pour lui, Dieu a dévoilé les autres faits de son conseil éternel concernant la rédemption de l'homme. Par la suite, à divers moments et de diverses manières, Dieu a parlé au Père par les prophètes jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même se manifeste dans la chair. Le temps écoulé entre les péchés d'Adam et Ève et le moment de la conception du Christ était d'environ 4000 ans. Pendant toute cette période, le plan de Dieu avec Christ comme centre a été caché comme un mystère. En Colossiens 1, 26, l'apôtre Paul dit, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. » Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Environ 2000 ans après Adam, Dieu a dit à Abraham que dans sa postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Vous pouvez voir dans Genèse 22, 17, 18. 2000 ans après Adam et Ève, Dieu a dit à Abraham que dans sa postérité, dans la postérité d'Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. Ça indique clairement pas Isaac, mais ça indique le Seigneur Jésus-Christ. Ce sera dans la lignée d'Abraham. Premièrement, cette semence a été désignée comme la postérité de la femme. Et après, nous voyons qu'il a été désigné comme la postérité d'Abraham. La promesse de Dieu à Abraham était une promesse de grâce. Et cette promesse est devenue l'alliance entre Dieu et Abraham, d'avoir Christ comme semence pour la bénédiction de la terre entière. Paul, dans son épître aux Galates, dit, je vais lire de Galates 3, 8, 9, « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ainsi, l'évangile a été prêché à Abraham par Dieu lui-même environ 2000 ans avant la naissance de Christ. Néanmoins, personne ne connaissait pleinement ce mystère du Christ en tant que postérité avant l'ère du Nouveau Testament. Moïse, Enoch, Noé et David ne savaient pas. Bien que Isaïe ait prophétisé au sujet de l'incarnation de Christ en Isaïe 7:14, il est douteux qu'il savait que sa prophétie se référait à Christ comme la postérité de la femme et la postérité d'Abraham. À l'époque de l'Ancien Testament, le Christ en tant que postérité était un mystère. Dieu a souverainement préparé l'environnement pour la naissance de Christ comme sémence de la femme et d'Abraham. Dans l'histoire d'Israël, le peuple saint choisi par Dieu est devenu captif de l'empire babylonien. Puis il devient captif à l'empire médo-perse et finalement des empires grecs et romains. Leur captivité sous le Romain a été sous le règne d'Auguste, le premier César formel de l'Empire romain. Un décret a été publié par lui à apporter les circonstances appropriées pour la naissance de Christ. Nous voyons en Luc chapitre 2. Christ est né pour être la postérité de la femme et la postérité d'Abraham pour la bénédiction de la terre entière. Et la promesse qui était donnée en Genèse 3:15 et plus tard à Abraham, la promesse qui était donnée, Christ est devenu la postérité de la femme et la postérité d'Abraham. Et après, on voit la généalogie messianique du roi David. Une ligne est tracée clairement au début, à la fin de l'histoire biblique, la ligne du roi David. Les Écritures révèlent chaque nom avant David. Adam à David, nous voyons le nom des personnes mentionnées de Adam jusqu'à David. Et chaque nom après David, c'est-à-dire de David à Zorobabel, puis le Messie devait être de la maison de David. Cela peut aussi être étiqueté comme la ligne messianique. En fait, la généalogie limite de plus en plus l'origine humaine de Messie. En tant que sémence de la femme, le Messie devait sortir de l'humanité. En tant que la postérité d'Abraham, le Messie devait venir de la nation d'Israël. En tant que sémence de Judas, il devait appartenir à la tribu de Judas. En tant que postérité de David, il devait appartenir à la famille de David. Et donc, vous voyez, cette généalogie nous démontre clairement Jésus est le descendant, il est la postérité de la femme, la promesse donnée à Ève dans le livre de Genèse, et aussi il est la postérité d'Abraham, et aussi il a accompli la promesse qu'il naîtrait dans la maison de David. David, le roi d'Israël. Et après, il y a un autre aspect que nous devrions voir. Dieu tient sa promesse à travers les âges. Vous savez, il y a 44 générations. En Luc, on voit, je pense que c'est 71 générations. Et ça peut paraître contradictoire, mais ils ne sont pas du tout contradictoires. C'est complémentaire, l'écrit de Luc et l'écrit de Matthieu. Il faut savoir que Matthieu, il écrivait pour les Juifs. Et Luc, il écrivait pour les païens. Il l'écrivait spécialement pour les Grecs. Hein? Marc, il écrivait pour les Romains. Et quelqu'un qui a dit que l'apôtre Jean, il a écrit l'évangile de Jean pour l'Église. Donc, il y avait un but. Il avait chacun, il avait leur audience, il voulait captiver l'attention de chaque peuple. Donc Dieu tient sa promesse. Dieu tient sa promesse. Et la promesse qu'il a donnée à Ève, la promesse qu'il a donnée à Abraham, la promesse qu'il a donnée à Noé, la promesse qu'il a donnée à chacun de ses peuples, Dieu, il a tenu sa promesse jusqu'à maintenant. Et Jésus-Christ est né dans le temps convenu. Le moment précis de l'histoire, quand il devrait venir, il est venu. Dieu tient sa promesse. L'hostilité entre la semence et la femme, et le serpent, a commencé le jour que le Seigneur a promis dans le jardin d'Éden. Le moment Dieu l'a donné cette promesse, qu'il t'écrasera ta tête et tu briseras son talon, il y a une guerre qui a commencé. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il y avait une guerre invisible en cours. Satan, le grand serpent, mena une guerre féroce pour exterminer la semence promise qui serait la cause du salut de la race déchue. Une étude attentive des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament et une vision globale de la narration biblique nous guiderait pour comprendre comment Satan, l'ange déchu, avait été déterminé à détruire la semence de la femme. L'espoir de la promesse Adam et Ève avaient a été anéanti par le meurtre de leur fils Abel. Quand Adam et Ève sont péchés, Dieu donne la promesse et Ève conçoit et elle enfanta Caïn, puis elle enfanta Abel et Caïn, il tuera Abel. Donc Caïn, il peut pas être cette semence, il peut pas être la postérité de la femme. Et peut-être ils ont croyé que Abel il était, mais Abel il était tué. Donc l'espoir qu'il avait était anéanti dans un coup. Au moment de la naissance de leur premier fils, Adam et Ève devaient avoir une mesure particulière de joie. Avec Abel est venu l'espoir que cette semence pourrait être le libérateur promis. Lorsque leur premier fils Caïn a tué son frère Abel, tous les espoirs ont été anéantis. Abel était plus en vie pour porter le coup fatal au serpent et Caïn n'était plus qualifié pour le faire. Avec l'arrivée de leur troisième fils Seth, les espoirs ont de nouveau été soulevés. Si ce fils n'était pas le sauveur promis, au moins il pourrait être l'ancêtre du Messie. Et Ève le savait. Et Adam eut de nouveau des relations avec sa femme et elle donna naissance à un fils et le nomma Seth. Car, dit-elle, Adam connut... littéralement... le fils dans la version originale, c'est marqué la semence. Avec cette la lignée continue. Avec cette le troisième fils d'Adam et Ève, avec cette est venu un nouvel espoir, mais dans seulement deux chapitres, Genèse 6, l'humanité est déjà dans un désordre. Les choses sont devenues si mauvaises que Dieu a décidé d'anéantir à la fois l'humanité et le règne animal avec un déluge. La lignée continue à travers de Noé. Par Abraham, la naissance miraculeuse d'Isaac, dont la mère Sarah était stérile et son père Abraham était vieux. C'est encore avec Isaac, je pense qu'il avait le même problème. Rebecca, elle était stérile encore. Mais Dieu l'a promis, mais quand même les circonstances n'étaient pas convenables. Dans les yeux de l'homme, il n'y avait que de désespoir. Imaginez si seulement Noé il n'est pas obéi, il n'est pas construit l'arche. Les sémences de femmes, la postérité de la femme auraient été détruites. Et comment le Messie peut naître? Et après Jacob, ses fils, et puis encore une fois, nous constatons que la sémence est en danger de péril à cause de la famine. Donc, Jacob, le petit-fils d'Abraham, avec ses enfants, il part en Égypte. Et là, ils deviennent, le peuple d'Israël, ils deviennent l'esclave. Et pour 400 ans, il n'y a plus d'espoir. Ils devraient être anéantis par Pharaon. Nous nous souvenons que Dieu appelle son fils hors d'Égypte pour le préserver et l'amener à la terre promise. Dieu l'a souvenu sa promesse à Abraham. Dieu lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Il parle à Moïse. Tu vas aller chercher mon peuple hors d'Égypte. Tu vas l'amener à la terre promise que à Canaan. Nous pouvons rester ici pendant longtemps si nous allons parcourir dans toutes les Écritures que comment Dieu l'a conservé, comment Dieu l'a préservé à sa promesse. Prenez par exemple Ruth, la femme Moabite, qui est une des quatre seules femmes qui se trouvent dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle se trouve dans un pays lointain avec sa belle-mère Naomi, toutes les deux veuves. Elle quitte Bethléem pour aller vivre dans un autre endroit. Et là, ils perdent leur mari. Naomi, elle perd son mari. Et Ruth et Orpha, sa belle-sœur, tous les deux, ils perdent leur mari. Et se réfugient dans ce pays sans espoir, encore une fois. Mais le Dieu souverain Jéhovah Jireh d'Abraham était là pour elle. Il a donné un fils et par ce descendant que le roi David est né, et par le roi David, dans la famille de David, Jésus-Christ est né. Dieu tient sa promesse, quoi qu'il arrive. Pour nous, ça peut sembler noir, catastrophique. Dieu ne peut pas tenir sa promesse, mais Dieu a toujours tenu sa promesse et tient sa promesse, même aujourd'hui. Et dans la généalogie, on voit aussi un autre aspect de Jésus-Christ, son humilité. L'humilité de Jésus-Christ, nous voyons. Nous ne le faisons pas et nous ne pouvons pas choisir la famille dans laquelle nous sommes nés ou nous voulons naître. Personne ici peut choisir la famille où nous voudrions être nés. Nous n'avons pas ce choix. Nous sommes nés dans une famille et les choses sont telles qu'elles sont. On ne peut pas choisir la famille ou notre généalogie. Souvent, les gens, quand ils veulent parler de leurs ancêtres, ils peuvent parler de leur généalogie. Mon grand-père était tel, et mon arrière-grand-père était tel. Souvent, les gens, ils parlent parce qu'ils veulent glorifier eux-mêmes. Ils voulaient parler de leur gloire. Mais Jésus a choisi sa propre généalogie. Nous n'avons pas le choix de choisir notre généalogie, mais Jésus-Christ, il a choisi sa propre généalogie. Lorsque nous examinons attentivement la généalogie de Jésus, les hommes et les femmes de tous les horizons sont là. de tout type de personnes, des hommes et des femmes de bonne et de mauvaise réputation. Dans ce monde, quand les gens veulent humilier quelqu'un, ils disent du mal de leur famille. Souvent, si on veut irriter quelqu'un ou humilier quelqu'un, on peut parler mal de leur famille. Avez-vous remarqué qu'il y avait 4 femmes dans la généalogie de Jésus? Premièrement, il parle de Tamar. Tamar, dans le verset 3 de Matthieu 1-3, Tamar. Je pense que on connaît l'histoire. Cette femme, elle s'est prostituée et elle rencontre son beau-père, Judas, et elle commet l'inceste avec son beau-père et son nom apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ. Et dans le monde, on dit que l'histoire est écrite par le puissant. C'est-à-dire, si on a la puissance pour cacher les choses moches, on cacherait ce que c'est fait normalement dans le monde. Mais le Seigneur, il a tout mis devant nous de telle personne à il descendait. Et Tamar, le verset 3 dit, Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara. Donc, ils sont des ancêtres de Jésus. Mais Tamar était un prostituée. Mais pourtant, le Seigneur, il a mis son nom dans la généalogie. Et après, nous voyons Rahab. Rahab, c'est dans le verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc, Boaz, le mari de Ruth, c'était le fils de Rahab. Et Rahab, c'était la prostituée qui se trouvait dans le mur de Jéricho et qui était sauvée par les enfants d'Israël, par Josué. Et le nom de Rahab est mentionné dans la généalogie. Rahab était l'arrière-grand-mère de David. Après, on voit cette femme, Ruth, la Moabite. Vous connaissez c'est qui Moab? Hein, les descendants de Lot. Donc Lot, il a commis l'inceste avec ses filles. Ses descendants sont des Moabites. Donc ce n'est pas sa faute, la faute de Ruth, mais c'est une Moabite. Après, nous voyons une autre femme. La Bible, elle ne donne pas son nom ici. Parce que pour le Seigneur, elle était toujours la femme de Uri. Elle n'était pas la femme de David. David, il a pris la femme de Uri. Il a commis adultère avec elle. Elle était impliquée dans l'adultère. Et ces personnes sont des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons compte qu'est-ce qu'il implique. Le roi des cieux et de la terre, le Dieu trois fois saint qui peut descendre si bas pour naître d'une famille des ancêtres de telle personne comme ancêtre. Mais quand la Bible dit que le Seigneur s'abaissait, nous ne voyons pas souvent combien il s'abaissait. Il faut être vraiment très haut pour abaisser. Et nous sommes très, très bas. Mais on pense que parfois, nous humilions nous-mêmes. Mais nous n'oublions pas autant. Mais le Seigneur, il a vraiment humilié beaucoup. En Philippiens 2, nous lisons, versets 5 à 11. « Ayant vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Mais souvent pendant Noël, on parle de la crèche, qu'il n'a pas eu la place dans la crèche, dans l'hôtel. Et donc, il est né, ils sont mis dans une crèche, dans une étable. Nous avons chanté, nous avons lu le passage ce matin. Mais comment il s'humiliait lui-même? En rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Et quand les anges sont apparus, ils sont chantés en chœur, gloire aux cieux et paix sur la terre. Et ils savaient ce que c'était. Mais les bergers ne savaient pas qui est né à Bethléem dans une étable. Mais les anges le savaient ce que c'est. Vous savez, le cantique qu'on chante au peuple fidèle dans ce cantique, dans la version anglaise, il y a une parole, mais dans la traduction, ce n'est pas la même chose. Dans la version anglaise, c'est dit quelque chose comme ça. Il n'est pas dédaigné naître d'une femme. Il n'est pas dédaigné pour être dédaigné naître d'une femme. Ce n'est pas... On est tous nés à la façon naturelle. Mais le Seigneur, il n'est pas trouvé ça humiliant de naître d'une femme. Hein? C'est ça que le poète en anglais, il a écrit. Et donc, ici, nous voyons l'humilité de Jésus-Christ. Et aussi, le Christ Jésus devait naître comme le raconte la généalogie. Il devait naître exactement avec de telle personne, tel moment. Et c'était la prophétie était accomplie. Nous voyons que la prophétie était accomplie dans la généalogie. Sinon, il ne pouvait pas prétendre être le Messie. Le peuple juif l'attendait la venue de Messie. Ils l'attendaient tous, le menu de Messie. Mais si Jésus-Christ il n'est pas né de cette façon, il ne peut pas prétendre être le Messie. Les prophètes se sont réalisés, comme indiqué dans le Nouveau Testament, et la généalogie de Jésus peut être trouvée dans Matthieu 1, 2 à 16 et Luc 3, 23 à 38. Matthieu a commencé les lignées de Jésus avec Abraham, et a nommé chaque père en 41 générations, se terminant dans Matthieu 1, 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Joseph descend de David par l'intermédiaire de son fils Salomon. Le récit de Matthieu, de la lignée, est unique dans le fait que 4 femmes sont incluses, Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Bathsheba n'était pas répertoriée par son nom, mais plutôt par le fait qu'elle avait été la femme de Uri. Dans le troisième chapitre de Luc, la généalogie commence avec Jésus, le fils de Joseph, et suit sa lignée jusqu'à Adam, qui était le premier fils de Dieu. C'était marqué Adam, fils de Dieu. Je trouve que c'est très beau d'écrire que fils de Dieu. Adam, et c'était la création de Dieu. Mais dans la généalogie, Luc, il décrit Adam, fils de Dieu. Donc, Luc, il compte 77 générations. La généalogie dans Luc est enregistrée avec le nom de Joseph, mais cette lignée était la lignée de Marie. Luc 3, 23 déclare, « En Jésus lui-même commença avoir une trentaine d'années, étant comme on le supposait, le fils de Joseph, qui était le fils d'Élie. Comme Joseph était chef de famille, il était répertorié dans Luc comme le fils d'Élie, plutôt que Marie comme le fils d'Élie, comme le fille d'Élie. Par conséquent, Marie était également de la maison de la lignée de David, puisqu'elle était descendait du fils de David, Nathan. La lignée de Joseph et la lignée de Marie correspondaient au même nom d'Abraham à David. Joseph et Marie étaient des cousins éloignés. Ils ont chacun accompli la prophétie selon laquelle le Messie descendait de la maison et de la lignée du roi David. Le titre légal de Jésus sur le trône du roi David était par Joseph, mais son titre de sang sur le trône était par Marie. Donc, il devrait, par titre, il devrait venir de son beau-père, Joseph. Il n'était pas son père. Il était né par l'action du Saint-Esprit. Mais, par le sang, par titre de sang, c'est un descendant de David par Marie. Et un autre aspect, nous voyons ici que la sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut hériter. Ce n'est pas hérité. Dans ce même passage, nous voyons qu'il y avait beaucoup de rois, beaucoup de personnes qui étaient justes devant Dieu, qui se portaient justes devant Dieu, mais leur fils ne l'était pas. Il n'était pas. Chaque fois, c'est quand nous lisons le livre de Rois et nous voyons que le père il marchait selon la loi de Dieu, avec la crainte de Dieu, le fils il était le contraire. Mais bien souvent, c'est passé ainsi. Salomon, il avait Rehoboam, Ézéchia, il avait Manassé, et Josiah, il avait Jéconia. Et Jéconia, il a eu la malédiction de Dieu, il était porté à Babylone, et Jéconia, il avait pas des enfants. Et donc, et quelqu'un qui a dit que Dieu n'est pas le petit-enfant. Dieu a ses enfants, mais il n'est pas le petit-enfant. Si vous êtes l'enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que votre enfant, ce sera un enfant de Dieu aussi. Si on n'élève pas dans la crainte de Dieu, nos enfants ne seront pas les enfants de Dieu. Et donc, ce n'est pas quelque chose... Souvent, les gens, ils disent que, oui, mon grand-père, mon père était chrétien, ma mère était, ma grand-mère était chrétien. Pas juste parce que vos grands-parents ou vos parents, ils marchaient devant le Seigneur, vous héritez la sainteté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que... Donc, dans la généalogie, on devrait retenir que ce que nous devrions retenir, que ce n'est pas automatique. Jésus, il avait des ancêtres qui étaient des prostituées. Et la parole, elle est très claire. Il y avait des rois très méchants dans cette généalogie, mentionnés dans cette généalogie. Mais pourtant, Jésus, il était né dans cette lignée. Mais il n'était pas pécheur comme des autres. Il avait nullement le péché en lui. Il était né sans péché. Pas parce que Marie, il était sans péché, pas parce que Joseph, il était sans péché, mais lui, il est né sans péché, parce qu'il est né de Saint-Esprit. Donc, en tant que parents, nous devrions faire attention que nous donnions la crainte de Dieu à nos enfants. Et c'est très important. C'est des parents qui craignent Dieu peuvent avoir les enfants qui ne craignent pas Dieu. Et nous voyons la grandeur et la miséricorde et la compassion de notre Seigneur. Jésus s'est humilié lui-même, on dit facilement, jusqu'à la mort de la croix, parce que le verset, il nous dit, mais il s'est humilié, il a descendu si bas, nous voyons par cette généalogie. Et il est venu dans ce monde pour naître. Il a pris dans la forme de pécheur. Hein, comme Jésus dit, donne cet exemple de nombre en Jean 3, 17-18, je crois. Comme le serpent de Hérin qui était élevé dans le désert. Le serpent, c'était la forme ou le symbole de la mort, le péché. Mais Dieu l'ordonne à Moïse de faire un serpent d'airain, puisque des autres peuvent voir ce serpent, il peut vivre. Et ainsi, Jésus, il a pris la forme du péché. Il était né sans péché, mais il a pris la forme du péché. Il a pris la forme d'un pécheur pour nous. Nous allons lire en Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. On va lire à partir de verset 9 jusqu'à 18. Hébreux chapitre 2, verset 9 jusqu'à 18. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus nous voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous avez remarqué? Il n'a pas honte. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ça, on voit combien il s'est humilié. Il est devenu semblable à nous, en toutes choses. Il a participé dans la chair, le sang et l'os. Il était comme nous. Donc, il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La tête de serpent était écrasée. La tête de serpent était écrasée. La promesse était accomplie. Il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, ainsi qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tenté. Il a goûté la mort pour nous. Jésus-Christ s'est abaissé, il a descendu sur cette terre, il a goûté la mort pour nous tous. Et pour nous amener à la gloire, et nous avons tous péché et perdu la gloire de Dieu. Nous étions dépourvus de la gloire de Dieu. Et Jésus, il a tout fait. Il a descendu si bas pour nous amener à la gloire. Et il nous a arrachés de la pouvoir de la mort. Il nous a arrachés de la mort et de la main de diable. Et tout cela, et encore, Jésus a fait parce qu'il était le fils de David, il était le fils d'Abraham. Et comme nous voyons dans ce généalogie, il était le fils de David, il était le fils d'Abraham. Et il a obéi à Dieu, à son père, en toutes choses. Et il a pu accomplir toutes ces choses. Et la généalogie de Jésus-Christ établit le droit de Jésus pour être le Messie. Le Messie, ça veut dire le oint, la personne qui était oint de Dieu pour nous sauver, pour venir, pour nous donner le salut. Donc, c'est Dieu qui a élu Jésus comme le Messie et il a accompli la promesse. Et tout cela, ça nous rappelle la miséricorde de Dieu. Combien Dieu a eu pitié de nous dans notre misère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Et c'est ça que nous célébrons dans ce période de Noël. Il est venu comme la lumière. Et il a accompli toutes les promesses. Bien sûr que la généalogie de Jésus est teintée par des pécheurs. Il y a beaucoup de... Et toutes ces personnes étaient des pécheurs. Même Abraham, le père de la foi, il était un menteur. David, il a commis l'adultère. Il a commis le meurtre. Et ils sont tous les pécheurs. Toutes ces personnes, dont Marie et Joseph inclus, ils étaient tous, ils étaient juste devant Dieu, mais ils étaient des pécheurs quand même. Les pharisiens, bien souvent, ils sont réclamés d'être le fils d'Abraham, des enfants d'Abraham. Mais Jésus, par cette généalogie, bien qu'il était le fils d'Abraham, il était le fils de David. Il dit que je suis aussi fils de Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Dans le monde, dans la généalogie, les hommes ne parlent pas souvent des femmes. Mais Dieu ne l'a pas fait ainsi. Ces personnes, ils sont des païens. Ruth, elle était païenne. Ils disent que Bathsheba, c'est la femme de Uri, c'est un hittite. Donc, le païen était bien inclus. Ça montre que Dieu, il est venu pour sauver aussi, pas uniquement le juif, mais aussi le païen. Et le juif, souvent, ils voulaient parler mal de Jésus. Ils se sont dit que n'est-il pas le fils de Joseph le charpentier? Il était connu comme le fils de Joseph qui était le charpentier en venant de Nazareth. Et tous ces hommes et des femmes dans la généalogie sont nés un jour. Et si vous allez voir le tombeau de ces hommes et des femmes, certainement, ça devrait être marqué que né le et mort le. Hein. Tous les êtres humains dans ce monde, ils sont un jour de naissance, un jour de la mort. C'est seulement Jésus-Christ, il est une exception dans cette liste de personnes. Il est né, il a goûté la mort pour nous, mais il est vivant. C'est lui qui vit pour toujours. C'est le Père éternel. Donc, dans cette généalogie, nous voyons que combien Jésus-Christ s'est humilié lui-même en prenant en forme de serviteur, un esclave, un pécheur. Nous étions le péché, esclaves de péché. Mais Jésus-Christ, il a pris notre forme. Il est venu pour nous sauver. Que notre cœur loue ce Dieu magnifique, ce Sauveur magnifique, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi avec un cœur rempli de reconnaissance pour tout ce que tu es. Seigneur, tu étais un roi de gloire. Seigneur, tu étais dans la gloire céleste. Tu partageais ta gloire avec ton Père. Mais pourtant, Seigneur, à cause de nous, à cause de nos péchés, nos désobéissances, Seigneur, tu as accepté pour prendre cette forme humaine, pour venir ici-bas, sur cette terre, dans la forme humaine, Seigneur. Tu n'es pas dédaigné de naître d'une femme. Seigneur, tu t'es compté comme un pécheur. Seigneur, souvent, les pharisiens, ils sont critiqués que tu étais un ami de pécheurs. Seigneur, mais toi-même, tu as dit que tu n'es pas venu pour sauver les justes, mais tu es venu pour sauver les pécheurs. Seigneur, nous sommes des pécheurs, Seigneur. Nous avons goûté ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous savons combien tu as souffert pour nous, par ta naissance et par ta mort. Mais Seigneur, nous te louons parce que tu as vaincu la mort. Et tu vis aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie éternelle et tu vis dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es né un jour dans ce monde, Seigneur, pour sauver des pécheurs perdus, comme nous étions. Seigneur, merci parce que ta parole est tellement fidèle. Nous démontre même des choses qui ne sont pas bonnes à voir, beau à entendre. Seigneur, ta parole nous dit, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, tu ne caches pas des choses. Mais Seigneur, aide-nous à être vrais, car nous sommes les enfants de Dieu qui est vrai et qui est la vérité. Seigneur, mais nous te demandons que tu nous aides pour à penser et méditer ces choses de Noël, Seigneur. Ce n'est pas une fête que faite pour s'amuser, mais nous célébrons Noël parce que nous voulons réfléchir, méditer ces choses pour comprendre vraiment ce que tu as fait pour nous. Et que, Seigneur, le salut que nous avons reçu gratuitement peut vivre pleinement en nous. Que Christ soit né dans nos cœurs aujourd'hui et que Christ soit né dans le cœur des personnes qui ne te connaissent pas encore. Entre nous, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.